Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Lille, il est midi. Le mensonge se vend d'autant mieux que le pouvoir d'achat s'écroule, que le chômage galope, que le dénouement matériel et mental nourrit la délinquance, que le fétichisme de l'argent triomphe à l'orée d'une dévaluation monétaire mondiale. En fait, les mercenaires sans scrupules misent sur le vide qui s'accroît dans l'homme et dans la société pour y capter les peurs, les angoisses, le ressentiment, l'abrutissement, histoire de concocter un électorat grégaire, corvéable à merci. Un petit texte qui date de 2004. Hein. Donc, on va pas vous parler philosophie, on va vous parler des BCE, les bons calculs économiques, les retraites déconnectées de l'inflation, la fiscalisation des allocations familiales, la baisse du taux du livret A, les contrats pourris imposés aux salariés par les employeurs et autres mesures qui font pleurer cet ennemi sans visage au pouvoir. L'argent pour quelques-uns. Autour des micros, Benoît Boussemard.
Oui, bonjour.
Pierrot.
Salut, André.
Donc, restez fidèles au 106,6 de Radio Campus Lille. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre pendant les pauses musicales ou humoristiques au 03 20 91 24 00. À tout de suite, un peu d'actualité.
Première, le café serré.
Alors, beaucoup de réactions suite à cette décision de la Commission européenne d'autoriser, après l'avoir interdit, que l'on nourrisse les poissons avec de la farine de cochon. Beaucoup de réactions négatives qui dénotent, je pense, de la part du consommateur, d'une méconnaissance totale du problème. Je vais donc tenter ce matin, si vous le permettez, et dans une optique purement pédagogique, de rassurer nos auditeurs en leur expliquant exactement de quoi il en retourne. Alors, tout d'abord, je ne sais pas si vous avez déjà goûté de la farine de cochon, mais je vous assure que c'est vraiment infâme. Ça a le goût de ces trucs bruns qui collent au fond des poubelles en été. Et donc, à part les poissons qui sont quand même très cons, je ne sais pas qui d'autre en voudrait de cette farine de cochon. Ensuite, et je sais bien que ce n'est pas une raison, mais quand même, eh bien moi je trouve que ça leur fera les pieds aux poissons de devoir se taper de la farine de porc. Mais oui, qu'on a tous du mal pour le moment, c'est la crise. Tout le monde fait des efforts et il n'y a pas de raison pour que les poissons n'en fassent pas aussi. De toute façon, je ne vous cache pas que je n'ai d'ailleurs jamais eu la moindre sympathie pour les poissons. Je vous assure que les poissons, grands égoïstes qu'ils sont, se fichent complètement de ce qui peut nous arriver. Les chars du carnaval d'Aoste, le nucléaire coréen, le printemps arabe, la Syrie, le Mali, on pourrait tous crever demain. Eh bien, les poissons, ils s'en foutent. Alors qu'on leur fasse bouffer de la farine de porc, c'est bien fait pour eux. Bon, le porc donc a pour vocation de devenir, avec bonheur et fierté, saucisse sèche, boudin noir, grelot de Savoie, jambon, ganda, terrine, andouillette, riette, paupiette ou encore crépinette. Et là, que lui annonce-t-on lors de son dernier voyage alors que résigné, il traîne la papatte sur le carrelage froid de l'abattoir et que dans moins de 5 minutes, il verra la lumière au bout du tunnel? Que lui annonce-t-on? Qu'on en fera de la farine pour ces cons de poissons. Et ça, c'est ce que j'appelle de la cruauté. Bon, cela dit, j'admire la cohérence de la Commission européenne car vu que les poissons mangent de la farine de cochon qui sont eux-mêmes élevés à la farine de poisson et dont le lisier se déversant par hectolitres puants entiers dans les nappes phréatiques provoquent les invasions d'algues vertes qui asphyxient les poissons sauvages, eh bien il faut bien les élever en bassin, ces poissons, où ils seront nourris à la farine de porc qu'ils nourriront à leur tour. Vous avez suivi? C'est aussi beau qu'une torture médiévale. En tout cas, moi, je crois que pour rester en bonne santé, je vais simplement arrêter de manger. Comme ça, je serai certain de connaître les causes de ma mort. À demain.
Matin première.
Ce n'était pas Matin Première, c'était un extrait d'une émission de Matin Première sur Radio Campus Lille. C'était Thomas Gunzik.
Ils sont quand même bons, les Belges.
Bon appétit.
Bon appétit.
Vous n'êtes pas enfui? Bien. Alors,
ça fait rire, mais c'est quand même très, 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 très sérieux.
C'est très, très sérieux, ce qu'il dit.
C'est plus que sérieux, puisqu'on est dans un système qui oblige les gens à manger de plus en plus de choses qui sont immangeables.
Voilà.
Je vais pas dire tout à fait comme ça.
Parce que c'est pas cher.
Parce que c'est pas cher et parce que, bien évidemment, on n'a pas l'argent pour l'acheter. Voilà. Je pense qu'il faut inverser le raisonnement économique qu'on est en train de tenir depuis maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années au nom du libéralisme. Le libéralisme, il dit, l'offre et la demande se rencontrent sur un marché totalement libre. On voit ce que ça donne depuis 40 ans, ce
marché
totalement libre.
La main invisible du marché.
La main invisible d'Adam Smith, qui date du 18e et du 19e siècle. On a beaucoup donné, et là, on est encore en train de donner plus. C'est quand même vraiment absurde, cette décision de la Commission européenne, au moment où, effectivement, il y a un scandale alimentaire qui n'est pas si scandaleux que ça, quand on connaît les pratiques habituelles de ces professions.
Voilà, c'est pas nouveau du tout.
C'est pas nouveau du tout, du tout, du tout. Donc, bon, on sait très bien que ce qu'on nous fait manger, on en a pour son argent. Donc quand on mange quelque chose qui coûte pas cher, il faut pas s'attendre à avoir des ingrédients qui coûtent cher dedans. Alors, conclusion, c'est quoi le minerai qu'on avait avec la fameuse société, comment elle s'appelle, Spanghero, hein, du célèbre rugbyman, la famille des rugbyman,
voilà,
qui ne sont plus dans la société.
Coup, ils ont vendu leur nom.
Ils ont vendu leur
nom. Passage.
Faut pas vendre son nom, parce qu'après, ça fait des ordres.
Ça fait con.
Je sais pas ce qu'ils en font. Ou pas.
Mais bon, et à la tête de Spanghero, c'est une filiale d'un groupe qui est un groupe français. C'est un groupe qui est une coopérative en plus, qui a grossi et qui a acquis effectivement des tas de petites sociétés qui font ça.
Et qui fait du canard aussi.
Et qui font du canard. Puisque,
sous le nom de La Berry.
Voilà, c'est La Berry, la bonne marque La Berry. Bon appétit également.
Alors, bon appétit et bon courage pour les acheteurs dans les hypermarchés de France et de Navarre. Absolument. Parce que les produits La Berry, c'est un énorme volume de vente à Noël ou Nouvel An. Que vont-ils faire
là, bah, ils vont acheter du saumon, puisque
acheter du saumon. Ouais.
Le saumon d'élevage, paraît-il, va encore grossir plus rapidement avec la farine de cochon qu'on lui donne.
Ou du poulet.
Bon. Donc, on est dans un système qui marche totalement sur la tête, quoi. Donc,
c'est l'Union européenne. Hein.
L'Union européenne, c'est vite dit, puisque derrière l'Union européenne, il y a plein de lobbies.
On est d'accord.
Des lobbies qui tranquillement ont pignon sur rue à Bruxelles, avec tout ce qu'il faut derrière
pour
effectivement pas faire des grandes affaires. Et au plus, on fait des grandes affaires, au plus l'Europe est en train de faire des bêtises. Et notamment cette chose-là. Donc quand on regarde un petit peu le système, comme je disais, le système c'est quoi? Je disais depuis longtemps, et on le sait, tout le monde le sait depuis Marx, c'est que le capital c'est un rapport social. Et ce rapport social, il oppose un salarié à un capitaliste. Le salarié travaille, le capitaliste fait rien, hein. Il apporte du capital pour pouvoir exploiter le salarié.
Et il prend des risques, on dit.
Il prend énormément de risques, comme on peut le voir tous les jours. Les petites entreprises peut-être, mais les grands groupes ne prennent strictement aucun risque. Hein. Bon. Et donc, quand on regarde un petit peu le fonctionnement de ce système comme tel, la valeur qui est créée, elle est répartie selon le rapport de force entre le capitaliste et le travailleur. On est dans un système où, d'un côté, le travailleur produit tout et crée toute la valeur, et de l'autre côté, la répartition qui se fait en fonction des règles imposées par le rapport social capitaliste. Si dans la valeur qu'on crée, on crée 10 et qu'on en donne 5 aux salariés, il peut consommer que 5. L'astuce qu'on a trouvée depuis maintenant 40 ans, c'est de faire en sorte que ces 5 puissent acheter de plus en plus de choses quantitatives. C'est ce qu'on appelle la fameuse plus-value relative. Cette chose quantitative, plus-value relative, pour 5, avant on avait peut-être 1 kilo de viande, maintenant on en a 3. Mais 3 kilos de viande de quoi? Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on a adapté pour le consommateur qui a des pouvoirs d'achat qui sont limités par le rapport d'exploitation, on a limité des capacités de consommer des choses
de qualité,
concrètes, réelles, de qualité. Il n'y a que les gens qui sont avec des revenus élevés qui peuvent se payer des produits de qualité.
Ou qui vivent dans des niches à la campagne.
Et qui réfléchissent à ce qu'ils mangent. Attention, hein, qui réfléchissent à ce qu'ils mangent. Parce qu'il y a beaucoup de gens à la campagne qui sont des fous, des fanatiques du supermarché du coin. Hein.
Les gens, c'est des maboules.
Le supermarché, c'est quand même ce qui a permis la consommation de masse. Faut jamais l'oublier. La consommation de masse, elle est profit de masse. Hein, donc,
merci Edouard.
Oui. Donc il y a Leclerc qui a mis ça en avant, puis après c'était Carrefour, et après on a vu de multiples grandes surfaces arriver.
Ton grand ami Gérard.
Avec le grand ami Gérard Mulier. Et tout le groupe Mulier. Alors, il y a quelque temps, j'ai fait un petit travail.
On a passé de la bouffe à Gérard Mulier brutalement. Par la grande distribution, en fait.
Voilà, donc il y a quelques semaines, j'ai fait une petite étude pour voir un petit peu où on en était, le groupe Mulier.
Alors, comment se porte-t-il?
Il se porte très bien, puisqu'il est en 6e position mondiale en 2011, le groupe Mulier, je parle, hein, avec un chiffre d'affaires qui est quand même assez intéressant, puisque ce chiffre d'affaires du groupe Mulier, estimé pour l'instant, ça va grossir, il est encore de 74 milliards d'euros.
Attends, répète, parce que là, les chiffres...
Le chiffre d'affaires total du groupe Mulier, il est de 74 milliards d'euros. D'accord? Donc je ne vais pas me tromper, hein, je vais bien relire parce que c'est des petits chiffres. Et donc
rappelle que le chiffre d'affaires, pour ceux qui ne sont pas économistes, c'est l'ensemble des produits vendus, en fait, c'est ça, les produits de vente.
À peu près, 74 milliards d'euros en gros, d'accord? Et ce chiffre d'affaires-là, avec ça, il n'est qu'en 6e position. Et Carrefour est devant. Pour l'instant.
On parle que de la France, là, on parle pas du monde.
On parle du monde.
Ah bon?
Non. C'est le premier mondial, c'est très très simple, c'est Walmart.
Walmart, allez.
Il y a intouchable, il est très loin de là.
Intouchable, 320 milliards d'euros en gros. 320 milliards. Hein. avec des implantations aussi un peu partout dans le monde. Il a essayé de vendre, il a essayé d'acheter il y a quelques années à Gérard Mullier justement le groupe, et Gérard Mullier avait refusé.
Il n'est pas implanté en France.
Il n'est pas implanté en France.
Et en Europe ?
En Europe, il est un petit peu implanté, mais de façon marginale en Allemagne, etc. Le deuxième groupe, c'est intéressant avec ce qui se passe en ce moment, notamment par rapport à Leclerc. Le deuxième groupe, c'est un groupe qui s'appelle McKesson. Personne ne connaît.
Eh non.
Combien de chiffre d'affaires ? 88 milliards à des bricoles dans le monde.
Donc plus que...
Beaucoup plus que le groupe Mullier.
Que Gérard.
Beaucoup plus. Que fait McKesson ? McKesson, c'est un groupe spécialisé dans la santé. Vous rentrez dans le supermarché McKesson, vous avez droit à vos médicaments, vous avez droit à votre chirurgien, vous avez droit à votre docteur, vous rentrez bien portant, vous sortez malade et opéré. Il n'y a pas de souci. 88 milliards de chiffre d'affaires.
C'est de quelle nationalité ?
Américaine, bien évidemment. Et il y a un autre groupe qui est très bien placé également, qui s'appelle Walgreens, et qui fait exactement la même chose, et CVS Pharmacie. Donc, quand j'entends Leclerc faire de la publicité en ce moment sur « il faut que les Français bénéficient de médicaments pas chers », bah ouais, ça va être comme de la viande de bœuf pas chère. On va avoir les médicaments pas chers.
Il y aura une belle boîte.
Il y aura une belle boîte. Mais on va avoir les médicaments pas chers pour qu'on puisse se soigner pas cher. Parce que comme ça, on aura une sécurité sociale qui sera pas chère et qu'on aura encore détricoté tout ce qu'on a conquis.
Parce qu'au passage, il faut rappeler que c'est quand même le Sécu qui paye tout.
Mais bien entendu, on aura encore détricoté un petit peu plus tous les acquis sociaux qui ont été acquis à partir de 1945.
Du Conseil national de la Résistance.
C'est assez incroyable. Ce monsieur Leclerc, il est en train de faire exactement la même chose sur les médicaments, et c'est pas rien quand même, que ce que les hypermarchés, les supermarchés, etc. ont fait sur la nourriture, les produits de textile, les produits de sidérurgie, puisque vous achetez de la sidérurgie.
Tous on les va produits revenir domestiques... sur Mittal.
Et quand vous achetez un four à micro-ondes, quand vous achetez un lave-linge, etc., c'est quoi ? C'est fait avec quoi ? C'est fait avec des aciers spéciaux. Ils sont où, ces aciers spéciaux ? Ils sont faits par qui ? Ah, bah, il paraît qu'on en fait de plus en plus dans le monde, ou moins en moins dans le monde, qu'il y a des crises partout, on va y revenir un petit peu après. Mais quand on regarde de près comment ça fonctionne, on est en train de s'apercevoir que ces groupes-là, ils sont en train de se renforcer fondamentalement, et ils se renforcent en nous vendant des choses qui sont de moins en moins... utile, mais véritablement utile, que ça soit la nourriture ou le reste.
Et là, on perd la notion de nationalité, ce sont des gros trucs multinationaux.
Ah, c'est multinational. Ouais. Quand je parle du groupe Mullier, bien évidemment, il y a Auchan dedans, mais il y a aussi le Roi Merlin, il y a Decathlon pour une partie, etc. etc.
Donc le fameux patriotisme des industriels et des capitalistes que tu évoquais tout à l'heure...
C'est de la bêtise totale, je veux dire.
Le
patriotisme, quand on est une multinationale, c'est son portefeuille. Le capital dont je parlais tout à l'heure, il faut bien voir que c'est un rapport social, je disais, mais qui est constamment obligé de se renouveler. C'est-à-dire que quand je suis capitaliste, je mets une mise, mes 10 euros de tout à l'heure. Mais c'est pour apporter quelque chose.
Sinon, tu les enlèves.
Comment je fais pour apporter quelque chose ? Il faut constamment que je transforme cet argent en d'autres marchandises ou en produits que je revends pour gagner de l'argent et gagner de plus en plus d'argent. Le capitalisme, c'est un rapport social infini. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais s'arrêter. Si on arrête, on est mort. Et donc, la logique du système, c'est bien de croître, de croître, de croître, pour tuer les autres, si possible ses concurrents, avant de se faire tuer soi-même. C'est comme l'histoire des farines de poisson et des porcs. Les porcs se font tuer, ils vont nourrir les poissons, et les poissons se font tuer,
de la farine, nourrir les porcs.
Mais au cours de l'histoire, on a vu ce processus que tu nous présentes, là, il y a quand même eu des crises de temps en temps. Des crises sévères.
Ah mais les crises, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que les crises, elles peuvent arriver de deux manières différentes.
Je ne parle pas de la pseudo-crise
actuelle. Et quand est-ce qu'il n'y en a pas eu des crises ?
Il y a toujours une crise. C'est-à-dire que le système, par définition, il est toujours en crise potentielle. Comme je dis, c'est toujours un système de transformation. On a des marchandises ou on a des matières premières qu'on transforme en produits que l'on doit revendre. Quand ce circuit s'arrête, quelques raisons, pour quelques raisons que ce soit, dès que le circuit s'arrête, ce circuit qui s'arrête fait qu'on ne vend plus. Si on ne vend plus, la crise, elle est pour celui qui n'arrive pas à vendre.
On fabrique plus.
La concurrence, c'est ça, on ne fabrique plus. Et donc, on est bien dans un système qui est toujours potentiellement en crise. Donc, il faut toujours l'alimenter, ce système. Si on ne l'alimente pas, s'il s'arrête, ce sont des crises qui sont des crises qu'on appelle, depuis le capitalisme, non pas des crises graves comme on connaissait au temps du Moyen-Âge, etc., qui étaient des crises qui était lié à des chocs de
conjoncture,
conjoncturelle, etc. Il faisait
l'épidémie,
pas beau,
la peste,
des choses comme ça. Donc, on était avec l'agriculture qui limitée. C'était des famines, c'était des crises dures. Nos crises à nous sont des crises, et c'est paradoxal. On va parler de malbouffe, etc. Ce sont des crises de surproduction. C'est pas parce qu'on produit pas, c'est parce qu'on produit tôt ou trop par rapport
des gens
à ce
qui
que
n'ont...
l'on peut acheter. Là. Et donc, comme les riches ne peuvent pas tout acheter, ils ne vont pas se faire aussi 5 000 yachts pour chacun, etc. On peut, hein. Mais bon, c'est quand même pas l'objectif majeur. Ils sont constamment obligés de réalimenter le système. Et réalimenter le système en ce moment, c'est quoi ?
Faire la guerre.
C'est ou soit faire la guerre, ou soit spéculer.
C'est ce que je voulais dire quand je disais qu'il y avait des crises, hein, tout à l'heure.
Voilà, donc on est dans un système qui engendre des crises majeures. Les crises majeures, ce sont les crises qu'on appelle de suraccumulation. C'est lorsque la quantité de capital est trop importante pour pouvoir donner encore des profits suffisants par rapport aux salariés qui luttent aussi. C'est toujours de plus en plus difficile de lutter en ce moment, on le voit bien.
L'opposition capital-travail.
L'opposition capital-travail. Quand le salarié demande plus de salaire, il y a moins de profits. S'il y a moins de profits, bien entendu, le taux de profit baisse. Ça ne fait pas l'affaire des capitalistes, c'est clair.
Donc c'est toujours un rapport de force.
C'est toujours un rapport de force, quel qu'il soit. La meilleure façon pour le capitaliste d'avoir un rapport de force le plus fort en sa faveur, c'est de faire quoi ? C'est de précariser tout le rapport social. Et quand on dit on détricote tout ce qui est acquis sociaux depuis la guerre, quand on dit qu'on précarise le travail, précariser le travail, moi je veux bien, on peut faire tous les accords qu'on veut en ce moment, ça ne changera pas d'un iota la quantité d'emplois qui sera créée. J'entends des bêtises tout le temps là-dessus, mais vraiment tout le temps. J'entendais encore, je ne sais plus qui disait ça, ça devait être Soubi. Monsieur Soubi qui était avec
Sinistre
Sarkozy,
Soubi, ouais.
Qui a fait la réforme des retraites, ce monsieur disait il faut allonger la durée de l'âge du la durée du travail et l'âge au travail.
De départ en retraite.
Mais ce monsieur est quand même assez paradoxal. Vous faites le travail jusque 60 ans, puis 62, 65 ans. Ça donne plus de boulot ? Il y a plus de jobs ? Je sais pas, moi, le gars qui
travaille... C'est pourtant facile à comprendre,
ça. Continue,
hein.
Il continue à travailler. Si vous dites... il faut des emplois, des emplois, des emplois. Mais où ils sont, ces emplois ?
Voilà, donc si vous travaillez plus longtemps, il y a plus de chômeurs et on peut faire baisser les salaires.
Et pour faire quoi ?
Alors, c'est ça.
C'est une conséquence indirecte.
Ce qui est important pour les caisses de l'État, où on dit que les caisses de l'État sont constamment en déficit parce que ça coûte cher de payer des chômeurs, etc. Mais ce brave Soubi, il oublie de dire que lui, quand il oblige les gens à travailler de plus en plus tard, alors que les entreprises les virent de plus en plus tôt.
Mais pas une contradiction.
Il suffit de regarder la liste en ce moment des usines qui ferment un peu partout. Pas des usines qui perdent de l'argent. Hein. Les groupes en question, ils se portent bien.
C'est ce qu'on appelle les licenciements boursiers.
Voilà, il y a des licenciements boursiers, il y a des licenciements pour augmenter tout simplement les profits. Dans ces éléments-là, qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose de très très simple. On licencie des gens alors qu'ils doivent travailler jusqu'à 65 ans. Premier résultat pour le capitalisme, ça sera la baisse des pensions qu'on va verser. Parce qu'ils n'auront pas acquis les trimestres.
Une durée suffisante.
Et on va avoir des retraités qui sont de plus en plus pauvres. Pouvoir d'achat, allez manger de la viande de cheval ou de bœuf. Vous aurez du bœuf au prix du cheval. Pas tellement. On vend les spaghettis ou on vend les. Je sais pas quoi, la.
Lasagne.
Les lasagnes au prix fort. Avec des viandes qui sont moins chères. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, sur les finances publiques, vous allez avoir un chômeur de plus qu'il faudra financer.
Donc pris en charge par la collectivité.
Pris en charge par la collectivité.
Et qui n'achètera pas, ou pas beaucoup.
C'est ce qu'on appelle la socialisation des pertes et la privatisation des bénéfices.
C'est pas nouveau. Hein.
C'est pas nouveau, ça ne vient pas de sortir.
C'est une vieille recette.
Ce sont des vieilles recettes qui existent depuis le capitalisme.
Voilà. Donc on ne nous parle pas trop... Enfin, on ne nous parle pas en tout cas de cette façon-là dans les médias officiels. Je rappelais l'introduction au début. Le mensonge se vend d'autant mieux que le pouvoir d'achat s'écroule, on est en plein dedans, ouais. Que le chômage galope, que le dénuement matériel est mental nourrit la délinquance et que le fétichisme de l'argent triomphe.
Et que nos braves chiens de garde font bien leur boulot.
Alors, une petite pause musicale. Allez, un grand classique. Un grand classique. Les contes, les crises, la crise de la vache. C'est pas nouveau. Je l'ai rarement entendu sur la radio. Donc, Jean Poiret, La vache à 1000 francs. Donc, un document INA de 1966 au palmarès de la chanson.
Au premier temps de la vache, toute seule dans son pré, elle est là, au premier temps de la vache. Il y a l'éleveur, il y a la bête, et il y a moi. Et ma faim qui bat la mesure, la mesure de mon estomac. Et ma faim qui bat la mesure, mesure aussi mes fins de mois. Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Ferait le filet à 100 francs, le rhum steak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Ferait la côte à 15 francs, la poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs. Ce serait intéressant et plus avantageux pour faire un pot au feu qu'un jarret à 1000 francs, un jarret à 4 francs. Au deuxième temps de la vache, c'est à peine si je l'aperçois. Au deuxième temps de la vache, il y a du monde entre la bête et moi. Il y a le tueur qui passe la mesure, le transporteur qui lui emboîte le pas. Pendant que Fontanet nous assure que la viande de la vache ne monte pas. Une vache à 1000 francs, en quittant le Morbihan, devient chemin faisant comme par enchantement. Une vache à 5000 francs, en arrivant au Mans, une vache à 5000 francs. On ne sait pas comment, augmente de 20% en traversant le Mans et devient par conséquent une vache à 6000 francs, une vache à 6000 francs. C'est bougrement tentant pour les gens d'Orléans d'en faire innocemment une vache à 10 000 francs, une vache à 10 000. En sortant de la ville, pris dans un tourbillon, devient à Arpajon par un calcul habile, une vache à 20 000, 100 000 à Montlhéry, 200 à Juvisy, 300 000 à Orly, arrivant à Paris, à la porte d'Italie, la vache n'a plus de Paris, la vache est au Gobelin, multiplié par 20. Par 252 au carrefour Richelieu et par 817 en sortant de la Villette. Au dernier temps de la vache, en rôti sur l'étal, elle est là. Au dernier temps de la vache, il y a un monde entre sa viande et moi. Et l'État qui prend des mesures, l'État qui mesure notre émoi. Et l'État qui prend des mesures, fait monter un peu plus chaque mois. De la vache à 100 francs, on en mangeait autant, autant qu'on en voulait, plus qu'il ne fallait, à midi au dîner, dans le café au lait de la vache à 500 francs. C'est déjà plus gênant, moi quand mange en moyenne 10 kilos par semaine, pour avoir mon comptant, je privais les enfants de la vache à 1000 francs, de la vache à 1000 francs. Il vaut mieux carrément se gaver d'ortolans et se frère des homards tartinés de caviar de la vache à 2000 francs. Ce sera pour le jour de l'an, on la mangera truffée sur un grand canapé, on gardera le foie gras pour les autres jours du mois de la vache à 5000 francs. Ça deviendra un placement. Avec mes lingots d'or dans mon grand coffre-fort, j'entasserai les rumsteaks et les coupons de beefsteak, la vache à 5000 francs. Ça devient décourageant. C'est pas qu'on soit méchant, mais un beau jour pourtant, il faudra bien qu'on sache qu'on ne peut plus suivre la vache. Oh la vache, la sale vache, oh la vache, nous rendra fous. Oh la vache, la sale vache, oh la vache, nous rendra fous.
Vous écoutez Radio Campus Lille, donc une chanson de 66. Ça, il y avait déjà une première crise sur suivez les prix, suivez la vache.
C'était une campagne qui s'appelait Suivez le bœuf. C'était et le voilà, ministre, c'était Fontanet, je crois, mais j'en suis.
Voilà, c'est ça.
Suivez le bœuf. Nous ont rejoint Christophe et Fabien, qui sont représentants syndicaux dans un magasin Auchan ici de la région. Et on va en profiter pour avoir, avant de reprendre avec Benoît, l'actualité vraiment très économique de ce groupe Mullier qui lui tient à cœur. Une actualité très sociale. Alors je résume brièvement, mais c'est l'occasion de corriger et de faire le point. Auchan, avec d'autres grandes surfaces, avait été condamné sur une histoire de non-respect du salaire minimum.
Un salaire inférieur au SMIC.
Voilà.
Oui.
Et ça, c'est une vieille histoire. C'est toujours en cours. Alors, est-ce que tu peux nous faire le point, Fabien ?
Oui, donc c'est toujours en cours, effectivement. Et ça risque de durer encore un petit moment.
Ils ont des avocats.
Hein. Ils ont ce qu'il faut. Et puis, effectivement...
Ils jouent la montre.
Ils jouent la montre et les procédures, etc. Donc, on avait effectivement déjà gagné au tribunal de grande instance de Lille. qui avait reconnu effectivement que Auchan n'avait pas respecté les dispositions légales et conventionnelles.
Auchan condamné pour non-respect du salaire minimum.
Voilà. En gros, ils utilisaient le paiement du temps de pause.
Il y avait une astuce.
Avec toutes les mécaniques aussi, parce que l'opération, enfin, ce système a fonctionné entre 2000 et 2007.
Donc ça représente déjà des pépettes là.
Donc voilà. Donc ça.
Combien de personnes?
Bah, c'est pratiquement...
C'est plusieurs milliers.
Oui, enfin, bon, effectivement,
ça représente une somme de 400 millions d'euros.
Bah voilà. C'était pratiquement tous les employés qui ont été concernés. Donc ceux qui ont été touchés par l'opération, parce qu'il y avait cet aspect de passer en dessous de l'assiette du SMIC, donc ça va concerner les niveaux 1A,
les niveaux SMIC, ouais,
les SMICA, 1B, 2A, etc.
Qui représente quand même un bon paquet de personnel,
ça représente
dans les magasins Auchan.
Pas mal de monde. Mais ce mécanisme, parce qu'à Auchan, en fait, la pause est payée. Et il y avait des systèmes de ce qu'on appelait de GMR à l'époque, les garanties minimum de rémunération qui découlaient des règles du passage aux 35 heures. Enfin, il y avait tous ces aspects-là.
Qui avaient été négociés? C'était des accords avec les organisations syndicales?
Oui, ça avait été négocié. Et en fait, il y avait ce qu'on appelait des compléments différentiels qui collaient à peu près. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais ça collait à peu près au paiement du temps de pause.
D'accord.
Le paiement du temps de pause a été intégré à un moment donné dans le forfait horaire. Et à un moment, ça s'est fait digérer et puis on s'est aperçu qu'il manquait un bout. Donc on ne sait plus si c'est
le paiement.
Et
puis c'était pas intégré au salaire, donc c'était pas considéré pour les retraites.
Ils avaient intégré ça dans le salaire. C'était ça le problème, c'est que normalement il y avait une modification aussi des fiches de paye. C'est-à-dire que c'est des montants qui sont censés apparaître sur des lignes différentes sur les fiches de paye.
Bon, donc première étape, Auchan est condamné.
Alors, première étape, ils ont plutôt gagné au prud'homme.
Ils avaient gagné
au prud'homme, ce qui était curieux, puisque les prud'hommes avaient donné raison à Auchan de manière un petit peu particulière. Et à côté de ça...
Des partages.
Même pas en départage. C'est ça qui est un petit peu, quand même, un petit peu fort de café.
C'est-à-dire qu'il y a des juges salariés qui ont
donné raison à Auchan sur un aspect, alors qu'il existait déjà des jurisprudences dans d'autres sociétés, comme Doux, etc. Donc ils avaient donné raison à Auchan. Entre-temps, il y avait une autre procédure qui elle, était au TGI, sur laquelle, effectivement, Auchan a été condamné. Et en même temps, il y a une partie des dossiers qui avaient été perdus pour les salariés au prud'homme qui sont allés directement en cour de cassation. Et la cour de cassation a cassé les jugements des prud'hommes en disant qu'ils avaient violé la loi.
Donc là, on en est clair. Là actuellement.
Voilà. Et là, on en est que ces dossiers-là...
Retour à la noix.
Retour devant ces mêmes prud'hommes. Et là, il y a eu l'audience et on attend le jugement qui devrait arriver en juillet.
Donc c'est l'actualité 2013 et c'est une affaire qui date depuis 2004.
Voilà.
Avec
la prescription qui est passée, puisqu'on a 5 ans de prescription, comme ça s'est réglé entre guillemets, maintenant le problème n'existe plus depuis 2008. Donc le litige porte sur la période 2000-2007.
Mais vous, les organisations syndicales, vous avez intérêt à être bien armés là, pour faire face à ces machines juridiques et administratives.
Ah oui, là, il faut être patient. La patience, on commence aussi
il faut
avoir des compétences. C'est le délégué, c'est Guy Laplatine, le délégué syndical central, qui avait soulevé le poteau rose. Hein, donc, il s'était aperçu, effectivement, qu'il manquait un bout dans les garanties minimum de rémunération de l'époque.
Et voilà. Benoît, tu nous disais qu'il n'y avait pas que Auchan qui était concerné.
Carrefour a déjà été condamné.
Mais ça avance plus vite. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que ça avance plus vite au niveau juridique à Carrefour qu'à Auchan.
Des bizarreries.
Il y a eu des classements aussi du parquet. Enfin, il y a eu
Puis c'est pas jugé au même endroit avec les mêmes juges.
Voilà. Ouais, c'est ça.
Ça, c'est les bizarreries de la justice.
Nous, on a plutôt centralisé, alors que Carrefour, ils ont plutôt décentralisé et attaqué par petits bouts un petit peu partout.
Donc, affaire à suivre et jugement en juillet.
Quels seront les prochains procès?
Voilà. Bah après, il y aura
parce
des appels.
Bon.
Il y a encore des jugements de cassation qui doivent arriver parce que Auchan a fait appel. De la condamnation du TGI. Donc il y a encore il y a plein de procès en parallèle là-dessus et ça tout
oui,
ça
sauf c'est... que bien évidemment avec
et pendant ce temps-là ils payent rien
avec les décisions de la Cour de cassation, ils sont de plus en plus mal parce que les décisions de la Cour de cassation font que maintenant pour justifier quelque chose qui devient totalement injustifiable, ça devient un peu difficile. Quoi. Mmh. Surtout bon, après ce qui s'est passé avec Carrefour. On gagne du temps, et bien entendu qu'on gagne du temps.
Bah, c'est
de
l'argent.
Dans tous ces éléments qui sont de la prescription, un euro de 2000 ne vaut pas un euro de 2013, c'est assez clair. Et c'est comme d'habitude. Bien évidemment, il y a encore un autre problème, si j'ai bien compris, au champ actuellement, c'est qu'ils sont en train de virer tout un ensemble de personnels qui sont des personnels qui rendaient des services.
Oui, au niveau des vendeurs eux-mêmes. Alors, juste pour terminer quand même sur le SMIC, au champ aujourd'hui, commence à reconnaître sa faute sur le non-respect du SMIC. Maintenant, il y a une autre partie aussi, parce que cette affaire elle est à plusieurs niveaux, c'est que comme ça porte sur les sommes qui étaient à peu près équivalentes au paiement du temps de pause, c'est tous les niveaux en fait qui ont été touchés, parce que quand on fait descendre un niveau en dessous du SMIC, ça crée pas forcément un écart, c'est en fait tous les niveaux, c'est toute la grille complète voilà, qui descend. Donc il manquait à peu près 4 à 5% sur les premiers niveaux, c'est qu'il manquait aussi 4 à 5% sur tous les niveaux qui étaient au-dessus. Donc le litige, il reste essentiellement sur les minimums des niveaux conventionnels. Sur la partie SMIC, Auchan reconnaît des
et quels que soient les statuts des salariés, c'est-à-dire les CDI, les CDD ou les précaires, tout le monde est touché et tout le monde est concerné.
Voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Tout le monde est concerné.
T'as une idée
Pour les cadres, ça fonctionne pas de la même manière, mais c'est essentiellement sur.
T'as une idée de la proportion en fait entre les emplois permanents type CDI et puis les emplois précaires à Auchan.
Il y a à peu près 20%,
Il y a énormément d'emplois précaires, comme dans toute la grande distribution. Hein. Quel que soit le type de grande distribution, on est avec des systèmes qui sont absolument incroyables. Quand on regarde un petit peu de près les rapports qui sont les rapports sur l'aspect social des entreprises, donc pas les bilans financiers, etc., on s'aperçoit que dans la plupart des sociétés de distribution, le nombre d'intérims, etc., de CDD est absolument considérable, et pour des périodes très courtes. Bien évidemment, il faut faire face à la bonne bouffe de Noël, du Nouvel An. Il faut des gens. Mmh. Même chose quand on est avec des fêtes par-ci, par-là. À Pâques, il y a des
coups de bourre.
Et donc, on est constamment...
Et inversement, au mois d'août,
Les périodes de solde, tous ces choses-là.
Il n'y a pas que les CDI, les CDD dont on parle. Il y a aussi le recours à la sous-traitance. Donc, dans les magasins, ça s'était bien développé. Et maintenant, j'ai l'impression que ça se développe beaucoup en centrale. Au niveau du service informatique, je pense que les joyeusetés vont arriver pour les acheteurs et les approvisionneurs dans l'année qui vient. Je sais plus, mais il y a un
Quand on va dans un magasin Auchan et qu'on voit quelqu'un de Auchan, on ne sait pas bien si c'est quelqu'un effectivement de Auchan, du magasin, ou si c'est quelqu'un d'une société qui vient faire son... Je ne sais pas comment vous avez un jargon.
Dans les magasins, généralement, ce sera quand même...
Il n'y a pas des gens qui viennent faire leur tête de gondole
Il peut y avoir
des têtes de gondole.
Des intervenants, mais généralement, on reconnaît quand même les gens du magasin, ils ont soit le pull...
Il faut l'uniforme.
Il faut que le magasin puisse les reconnaître aussi.
Globalement, le magasin, ça reste quand même des
plus le personnel de sécurité,
C'est même pas ça, c'est qu'en plus maintenant.
Alors c'est vrai que dans certains magasins, les personnels de sécurité.
C'est de la sous-traitance. Enfin, c'est
ça peut être de la sous-traitance. C'est pas général à tous les magasins de France, mais c'est.
C'est ce qu'on appelle l'externalisation d'un certain nombre d'activités. On sait très bien, par exemple, que sur les activités de nettoyage, etc., c'est ce qu'on disait une autre fois. Quand on regarde le système industriel français, on a eu des pertes d'emplois du système industriel français qui n'étaient pas dues à des licenciements, qui étaient dues au fait qu'on a externalisé un certain nombre de choses vers des sociétés de services.
La fonction publique.
C'est valable partout, la fonction publique. Maintenant, on a des statuts précaires. Moi, j'ai fait partie des statuts précaires il y a 35-40 ans dans la fonction publique. On était assistant non titulaire, renouvelable chaque année, et corvéable à merci chaque année. On avait réussi, après 81, après une grosse lutte entre 81 et 83, se faire titulariser. C'était une lutte qui avait été menée notamment ici sur l'INA. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On retrouve exactement le même schéma.
On recommence.
On a recommencé parce qu'on avait titularisé les assistants. Et ensuite, on pouvait faire une magnifique carrière dans l'université, c'est clair, avec des niveaux de salaire qui sont mirifiques, tout le monde le sait. C'est assez génial, l'université.
C'est de l'ironie, il faut préciser pour l'auditeur.
Oui, il vaut mieux préciser pour l'auditeur, c'est vraiment très ironique. Donc, par rapport à ça, ils ont recréé tout un vivier de salariés qui ont des statuts qui ne sont pas des statuts ni d'universitaires ni de chercheurs. D'ailleurs, pour le CNRS, c'est la même chose.
Qui sont des contractuels.
Qui sont des contractuels, qui fonctionnent de plus en plus avec des contrats que les universitaires doivent aller chercher pour pouvoir faire subsister l'université. Moi, j'appartiens à l'université de Nanterre. J'ai vu un petit article dans le Canard Enchaîné la semaine dernière qui parlait que, au niveau, par exemple...
C'était encore plus gros, là.
Ah, c'était encore beaucoup plus drôle que, au niveau
une
de...
Une boîte privée qui est dans les locaux de l'université.
Voilà, une boîte privée qui est dans les locaux de l'université.
Qui fait de la formation continue.
Qui fait de la formation continue, qui est donc avec des rentrées d'argent extrêmement intéressantes. Et les enseignants qui étaient dans cette filière-là, qui étaient des enseignants du public, gagnaient trois fois plus d'argent quand ils allaient bosser dans la petite cellule à côté qui était privée.
T'as pas dit la cato aussi, non?
Tout en.
C'est pas la cato, c'est notamment lié.
Non, mais.
Là, c'était des gestionnaires. Donc, ils ont fait un montage financier.
Tout en à première vue, en donnant les mêmes cours.
En donnant, bien évidemment, les mêmes cours.
C'était important.
Pendant qu'on y est, c'est ce qu'on appelle.
Justifier le prix, oui.
Non, c'est ce qu'on appelle des économies.
On s'est laissé entraîner, là, Benoît. Revenons à notre Gérard préféré.
Si on revient à notre Gérard préféré, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les taux de profit sont quand même assez considérables. Et ils restent considérables. Sur l'ensemble du groupe Mullier, on est autour de 12 à 11% sur les 5 dernières années de taux de profit sur l'ensemble du groupe.
Le taux de profit, ça veut dire que c'est l'actionnaire qui palpe là.
Voilà. En gros, taux de profit, c'est simple, c'est le résultat net sur les fonds propres. Les fonds propres sont considérables. Les fonds propres, ils sont passés au niveau de la famille Mullier de 5 milliards en 1999 à 16 milliards pratiquement en 2011.
C'est tombé du ciel, ça.
Je ne sais pas, mais il y a des gens qui travaillent un peu partout. Ici, par exemple, au champ, ça s'appelle l'exploitation.
C'est le résultat du travail.
C'est le résultat du travail.
Ça permet d'investir.
Ça permet énormément d'investir, de racheter plein de choses.
Pendant ce temps-là, les salaires ont augmenté de combien là,
les salaires, je ne sais pas ici parce que c'est des informations qu'ils ne publient pas. Donc les salaires, il faut faire des calculs assez compliqués. Et là, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les travailleurs précaires, etc. Ils ne sont pas dans l'effectif. Donc comment savoir un véritable taux d'exploitation du travail quand il y a des tas de gens qui bossent?
Ça représente 20% du personnel, comme disait...
Par exemple. Et donc ils sont dans les services extérieurs. Ils ne sont pas dans la masse salariale. Donc tout ça, c'est faussé. Mais ce qu'on sait, et ce qu'on sait vraiment de façon sûre, c'est les bénéfices de ces braves gens. Quand on regarde, par exemple, sur les dernières années, la Russie, à votre avis, est-ce que la Russie dégage plus de profits que la France?
Bonne question.
Moi, je dirais oui.
Et c'est oui. Gagné. Donc... En 2011...
Vous pourrez revenir le mois prochain, monsieur.
Le résultat de l'exercice pour la Russie, c'était 182
parce
millions...
Parce que les salaires sont moindres là-bas, ça y est.
...d'euros, ouais. Et en France, ils ont mal bossé, c'est-à-dire que c'est normal qu'on les exploite davantage. Ils n'ont gagné que 163 millions d'euros. Pas terrible, quand même, en
France. Les clients n'ont plus de sous non plus, en France.
Si, parce qu'en Russie, on réalise 182 millions d'euros de bénéfices, mais pour des chiffres d'affaires qui sont trois fois inférieurs au chiffre d'affaires en France.
Une belle performance.
Ça marche.
N'est-ce pas? Donc, le dernier chiffre d'affaires qui a été publié pour la Russie, c'était en 2010. Maintenant, il ne publie plus. Hein. Il ne donne plus d'infos. Il y avait 4,2 milliards de chiffre d'affaires pour la Russie. Ils avaient 154 millions de bénéfices. Donc 154 millions. La France, elle se faisait 14 milliards et n'avait que 240.
Mais s'il ne publie plus, tu vas te faire blouser. Tu ne vas plus pouvoir mener ton enquête de Sherlock Holmes,
c'est un peu d'Internet. Plus mais en même temps, ils sont coincés parce qu'ils ont recours, eux aussi, de plus en plus au marché financier. Deux petites choses, deux petits exemples. Le roi Merlin... Il vient d'emprunter 100 millions d'euros sur les marchés financiers. C'est la première fois que Laurent Merlin le fait. Auchan le faisait depuis plusieurs années. Hein. Il vient de renégocier, par exemple, un emprunt de 800 millions qui s'est... Alors là, quand Auchan émet un emprunt obligataire sur le marché financier, il y a 4 fois plus de montants que ce qui est proposé par Auchan. Et Auchan a une notation... extrêmement bonne de la part de toutes les agences de notation, hein, Moody's, etc.
Il donne
confiance absolue et un taux d'intérêt très très bas.
Et qui prête à Auchan?
Les marchés financiers, c'est-à-dire les banquiers, etc. Donc,
c'est-à-dire notre pognon.
C'est pas ton pognon.
L'État français n'a pas prêté des sommes, tous les États européens n'ont pas prêté des sommes assez astronomiques aux banques, donc aux établissements financiers, à 1%.
C'était pour sauver ton épargne, André. Les banques ont été sauvées, elles ont déjà tout remboursé par été.
Mais l'argent qui est dans les banques, l'argent qui est dans les compagnies d'assurance, c'est l'argent collectif.
C'est l'argent que tu y mets.
Voilà.
Pour te protéger, normalement.
Donc ils investissent avec notre pognon.
Bah oui, ça a toujours été ça, une banque. Depuis le Moyen-Âge, non, ça a toujours été ça.
C'est quand même bon de le rappeler.
Mais c'est bon de rappeler, effectivement, que c'est nous qui donnons l'argent.
L'argent, il tombe pas.
La fameuse séparation en France qu'on est en train de faire pour sauver le système financier de la spéculation, c'est la distinction entre les banques de dépôt et les banques d'affaires. Donc on dit les banques de dépôt, c'est toi, c'est mon argent, j'ai un petit peu d'argent sur mon compte,
paf, courant,
tous les comptes courants, voilà, donc, et avec ça, normalement, les banques ont plein d'argent. C'est pas leurs fonds propres à elles, hein, aux banques.
Bien sûr.
Les fonds propres, c'est autre chose, c'est l'argent qui est investi par les capitalistes qui possèdent les banques. Mais l'argent qu'ils font travailler, c'est l'argent de tous les dépôts. Si tous les gens qui ont de l'argent en banque, et on l'a vu par exemple avec Fortis en Belgique, etc., allaient réclamer leur argent quand il y a un souci, le marché financier s'effondre. C'est clair. Donc, les États ont été obligés, avec la fameuse affaire de 2008-2009, de quoi ? De venir au secours des banques en apportant énormément d'argent aux banques. Donc, les banques ont reçu de l'argent des États, et pour les remercier, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont fait payer les États, et maintenant, les États qui sont endettés, les banques obtiennent des taux d'intérêt faramineux pour pouvoir sauver de l'endettement les États qu'elles ont contribué à endetter. C'est merveilleux. On disait tout à l'heure les cercles vicieux et les contradictions, on est en plein dedans, encore une fois.
C'est quasiment un système cannibale.
C'est un système tout à fait cannibale.
Alors, je vous propose une petite pause entre 12 et 13 heures. Les vaches cannibales par Claude Semal. Claude Semal.
Les vaches cannibales, nous mangeons comme les chiens, du canicou, du pâle, des croquettes de bovins, des farines animales. L'herbe c'est dégueulasse, ça colle entre les dents, ça goûte la limace, on fait caca dedans. Le foin ça fait des crasses, la paille c'est embêtant. Faut qu'on se décarcasse pour manger proprement. Nous sommes les vaches cannibales, nous faisons de l'élevage très expérimental. Pour faire une jolie vache, tout est dans le mental. Mariant l'écologie avec le libre-échange, ce qu'on mange on chie, ce qu'on chie on le mange. Pour faire de jolis veaux, sans un pli sous les cornes, plus besoin d'un cerveau pour être spongiforme. Nous sommes les vaches cannibales, nous mangeons comme les chiens, du canicou, du pâle, des croquettes de bovins, des farines animales. L'herbe c'est dégueulasse, ça colle entre les dents, ça goûte la limace, on fait caca dedans. Le foin ça fait des crasses, la paille c'est embêtant, faut qu'on se décarcasse pour manger proprement. Nous sommes les vaches cannibales, peut-être un peu fort-folle, nous dansons dans les balles, un drôle de rock and roll autour des pierres tombales.
Nous sommes les vaches cannibales, nous sommes les vaches cannibales, nous sommes les vaches cannibales, nous sommes les vaches cannibales.
Championne des figures libres, c'est sûr qu'on vous épate à perdre l'équilibre en restant sur nos pattes. Mais c'est nous qui rions, car dans quelques années, la danse des frions, c'est vous qui la danserez.
Cannibales, cannibales,
nous sommes les vaches cannibales,
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 nous sommes les vaches cannibales,
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 nous sommes les vaches cannibales,
cannibales.
Radio Campus Lille, vous l'avez reconnu, Claude Semal. Vous écoutez l'émission BCE, Bon Calcul Économique.
On vous rappelle que comme cette émission et comme toutes les autres émissions de Campus, si vous l'avez pris en route, vous pouvez nous réécouter, nous télécharger, nous podcaster sur le site de Campus, www.campuslille.com. Toutes les émissions sont disponibles pendant 2 mois et gratuitement, bien sûr.
Voilà, vous accédez aux émissions ou alors à
toute l'actualité de
l'index, les pages, il y a un tas d'articles d'émissions qu'on
peut réécouter. L'actualité aujourd'hui, c'est avec Benoît Boussemard, l'invité de ce magazine. un invité régulier. On vient de traiter un premier dossier, ça c'est vraiment, j'allais dire, ta bête noire. Non, c'est ton petit chouchou, Gérard Mullier.
J'en ai plein maintenant.
L'AFM, l'association.
J'en ai plein.
Et alors maintenant, tu t'attaques très sérieusement à un autre personnage d'actualité. Là, il n'est pas français, hein. Mais il a fait beaucoup parler de lui à propos de l'acier. Il s'agit de Monsieur Mittal. La famille Mittal, d'ailleurs, il faut dire.
La famille Mittal, puisqu'elle contrôle pratiquement tous les postes importants et les trusts au niveau du groupe Mittal. Hein.
Un gros truc encore, là, un gros poisson.
Alors, Mittal, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on a encore une fois deux raisonnements économiques qui sont faux. Le premier raisonnement économique, c'est qu'il n'y aurait plus besoin d'acier. Bon. Et qu'on dit, comme on avait dit d'ailleurs pour l'industrie textile et habillement à un moment donné, que...
On n'a plus besoin d'acier ou on n'a plus besoin d'en fabriquer ?
Bah, les deux, bon, en général, parce que si on n'a plus besoin d'acier, on ne fabrique plus d'acier. Et donc, le problème, c'est est-ce que la consommation d'acier diminue dans le monde ou pas ? Comme on disait, que la consommation de produits textiles...
Quand on fabrique des TGV, quand on fabrique des avions, quand on fabrique des appareils domestiques, c'est de l'acier. Enfin, il y a de l'acier.
C'est tout à fait juste. Et donc, il fallait regarder un petit peu le raisonnement que moi j'ai entendu de la part de tous les journalistes ces derniers temps, c'est qu'on avait une demande mondiale d'acier qui s'écroulait. Je ne sais pas si tu as entendu ça, mais moi j'ai entendu partout que la demande mondiale d'acier était quelque chose qui devenait catastrophique. Et que c'était pour ça d'ailleurs que M. Mittal était obligé de fermer Gandrange, d'abord, qu'il a fermé, puis Florange, etc. Donc moi je suis un peu bête, hein, donc moi je regarde ce qui se passe et puis je regarde les chiffres. Premier chiffre un petit peu intéressant, c'est est-ce que cette production mondiale d'acier diminue ou pas ? Ben non, hein. Quand on regarde... les quelques chiffres, je vais prendre 2005-2011. 2005, production mondiale d'acier, 1146 millions de tonnes. 2011, 1519 millions de tonnes.
Donc, pratiquement plus de 50%.
Voilà. Donc on est sur une consommation et une production d'acier qui ne fait qu'augmenter. Le seul moment où il y a eu une crise au niveau de l'acier, c'était les années 2008-2009, où la production mondiale a baissé à 1235 alors qu'elle était à 1347 millions de tonnes. Bon. Alors on dira, mais ça baisse pas. Bah non, ça baisse pas.
Donc qui fabrique alors ?
Alors voilà, la bonne question, c'est celle-là. Qui fabrique ? Alors là encore, j'ai regardé, bien entendu, qui fabriquait derrière, puisque ArcelorMittal, la famille Mittal, c'est quand même quelque chose d'assez gros. Le monde.
Quand on voit, on a tous les yeux l'organigramme, la pieuvre énorme.
Ouais, j'ai commencé à faire un petit organigramme, comme j'adore faire les organigrammes pour les grands groupes. Et donc j'ai regardé un petit peu qui produisait. Ah, tiens, la Chine.
C'est pas étonnant.
Comme pour le textile, 355 millions de tonnes en 2005, on est passé à 684 millions de tonnes.
Alors qu'ils n'ont pas de minerais.
Ils n'ont pas de minerais, mais ils ont des idées et ils ont des intérêts. Et ils les défendent très bien, puisque au niveau mondial... on a les Chinois qui investissent et qui achètent des mines en Amérique latine, en Afrique, etc. Ils sont présents partout. Et ils ont les moyens d'être présents.
Entendu, les Chinois, c'est des industriels privés en Chine ou bien c'est l'État ?
C'est les deux. C'est-à-dire qu'en Chine, on a souvent un mixte d'investissements privés et d'État. L'État chinois est un État capitaliste.
Bien sûr.
C'est ce qu'on appelait à une certaine époque le capitalisme monopoliste d'État.
Comme tous les États.
Comme dans tous les États. Et donc on est bien sur un système où l'État chinois défend les intérêts chinois. Et ne défend pas nos intérêts à nous, contrairement à ce qu'on peut croire. Hein. Alors, deuxième petite statistique intéressante, l'Union européenne a 27. Donc l'Union européenne a 27, c'est l'ensemble de la zone européenne telle qu'on la connaît, y compris la Roumanie, etc. On était à 195,5 millions de tonnes en 2005. On a descendu à 177,7 en 2011. Donc il y a un problème européen qui est assez clair.
D'où la fermeture de Gandrange, de Florange
et en Belgique. Mais ce n'est pas aussi évident que ça. Il y a des stratégies qui sont des stratégies de groupe qui viennent influencer tout ça. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'acier en Europe que ça se produit. Mais c'est parce qu'il y a des décisions d'un certain nombre d'acteurs européens, enfin qui interviennent en Europe, qui font que ça baisse. Par exemple... Mittal était présent un tout petit peu en Allemagne. Il a été sorti. On a en Allemagne un grand groupe qui s'appelle Thyssen. Il ne faut pas l'oublier, ce groupe-là. Production d'acier en Allemagne, 2005, 44,5 millions de tonnes. 2011, 44,3 millions de tonnes.
Ça, c'est stable.
Bah, à l'identique.
On n'a pas bougé, là. Pourtant, il y a la crise en Europe comme partout, si j'ai bien compris ce que disent les journalistes.
Oui, mais les Allemands, c'est mieux.
Ah ben, il y a un petit souci. Je vais revenir après par rapport au parallèle avec le textile. Par contre, en France, on est passé de 19,5 millions de tonnes à 15,8.
Donc une baisse là de 30-40%. Là,
ouais. Problème. Et on dit qu'il y avait crise en 2010-2011. Or, on était en 2009 avec la vraie crise qui avait baissé tout, où ça avait baissé partout, y compris en Chine. On était passé à 12,8 millions. On est remonté à 15,8 millions. Donc la crise n'est pas pour tout le monde et pour n'importe quand. D'accord. Alors pourquoi il faut faire le parallèle avec d'abord la situation qu'on a connue dans le textile et l'habillement. Les délocalisations, parce qu'il faut bien parler de délocalisation maintenant. Ce qui est en question, c'est bien ça sur le fond. Les délocalisations, elles commencent toujours à l'endroit faible. L'endroit faible, c'est quoi? C'est là où il y a de la main-d'œuvre. Dans le textile et l'habillement, c'était la confection. Ça a délocalisé d'abord.
Pourquoi tu dis c'est un endroit faible? Parce que là, la main-d'œuvre est chère.
J'espère que tu as bien compris tout à l'heure ce qu'on avait dit sur la malbouffe, parce que l'habillement, c'est la même chose. Si je veux t'habiller moins cher, il faut que je te propose le même vêtement qui coûte moins cher. Dans un vêtement, la valeur travail, c'est le temps de travail qui est dedans, avec une valeur du travail à un endroit donné. Si la valeur de ton travail à un endroit donné coûte 10 fois moins cher qu'ici, qu'est-ce que tu fais? T'as le même temps de travail pour produire la même pièce, mais qui coûte 10 fois moins cher. Qu'est-ce que tu fais? Tu délocalises. On a commencé par délocaliser de façon très proche dans l'habillement vers, pour l'Allemagne par exemple, les pays d'Europe de l'Est à l'époque. Pour nous, pour tous les pays du bassin méditerranéen,
Afrique du Nord, Tunisie, etc.
On faisait ça également au niveau de l'Espagne proche et du Portugal, où les salaires étaient à l'époque 5 fois moins chers. Hein, faut pas l'oublier, avant leur entrée. Il me semble qu'André, tu m'avais dit qu'il y avait un anniversaire intéressant pour l'Espagne, non?
Ah oui, c'est vrai. Oui,
c'était l'entrée de l'Espagne.
Dans l'entrée, non. Donc en 2005, ouais. Les Espagnols ont dit oui à une très large majorité au projet de constitution européenne. C'était en 2005, ouais. Il y a 7 ans, oui.
Et nous, on avait voté non.
Nous, on a voté non. Il n'y a pas que nous. Les Hollandais aussi.
Oui, il y avait plein qui avaient voté non.
Les Irlandais.
Ah, et les Irlandais, effectivement. Et ensuite, on ne demande plus l'avis à qui que ce soit parce que.
C'est trop démocratique.
Faut pas déconner.
Absolument. Donc, on délocalise d'abord les endroits où la consommation fait qu'on est obligé de vendre des produits moins chers, et pour les vendre moins chers, il faut les produire moins chers.
C'est valable pour les articles, les produits de, j'allais dire, entre guillemets, de bas de gamme. Pour la bagnole, c'est pas pareil.
Mais pour
une plus-value.
Mais pour la bagnole, la quantité d'acier dans une voiture a diminué considérablement. On a des aciers qui ne sont plus des aciers classiques. Moi, je me rappelle, j'avais eu une vieille Ford il y a une trentaine d'années. Quand je soulevais le capot, j'avais du poids dans la main. Quand tu soulèves un capot, tu le soulèves d'un doigt maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a des aciers spéciaux. On a besoin de moins d'acier, mais pas des mêmes aciers qu'avant. Et surtout, on a besoin de plus en plus d'acier, parce que la production mondiale, je te signale tout à l'heure, qu'elle a augmenté, et qu'en Europe, elle ne diminue pas autant qu'on veut bien le dire. Et surtout que la crise de 2010-2011, c'est de la blague. Bon, donc ça, c'est un point important. Quand on regarde les produits qu'on vend dans la grande distribution, il n'y a pas Couchant, hein, j'en veux pas particulièrement, mais Carrefour fait la grande distribution. Les appareils électroménagers, ils sont fabriqués où maintenant?
Où?
En Chine. Ah. Tu comprends pourquoi la Chine elle a augmenté sa production d'acier au niveau mondial? Ah, tout le monde le sait, mais quand tu produis en Chine, le consommateur, il achète les produits que t'importes. Mais on va quand même pas s'emballer des aciers fabriqués en Europe vers la Chine pour faire des réfrigérateurs, pour faire des...
Et donc on fabrique l'acier.
Donc, qu'est-ce que font les gens? La consommation, qui est une consommation à bas prix, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pousse à la délocalisation pour obtenir les salaires les moins chers possibles, et la délocalisation du bas entraîne progressivement celle du haut. Dans la confection, on a d'abord délocalisé la confection, puis on a délocalisé le tissage, puis on a délocalisé les filatures, puis on a délocalisé les productions de fibres. On est en train exactement d'arriver au même résultat en Europe pour toute la filière acier.
Donc la roubaisisation de la France.
Voilà. Et donc on est dans un système... Est-ce qu'il y a encore un peignage en France? Eh non. Alors qu'on était le leader mondial du peignage dans le monde il y a encore 50 ans. La bourse européenne, la bourse mondiale du peignage, elle était à Roubaix. Ça se traitait au mercure. Je me rappelle encore, j'y suis allé plusieurs fois. Donc
c'est pas vieux.
Et c'est pas vieux. Donc, on est dans un système où, bien évidemment, comme on veut des produits de moins en moins chers, la bagnole comme les autres, hein, vous êtes les premiers à râler quand vous n'avez pas votre réduction de 10% sur le prix qui est affiché maintenant. Tout le monde demande des voitures pas chères. Bah, si tu veux une voiture pas chère, il faut que l'acier soit pas cher, il faut que le coût du travail soit pas cher, etc. Donc,
et voilà pourquoi où... Monsieur Mittal se casse.
Monsieur Mittal se casse pas. Monsieur Mittal produit ailleurs. Parce que Monsieur Mittal, lui, se porte bien. Donc ce qu'il veut, lui, c'est effectivement avoir des outils de production adaptés juste aux conditions de la consommation locale. Comme la consommation locale d'acier est en train de fiche le camp vers d'autres pays, par exemple, on produit des voitures en Roumanie, on produit des voitures en Hongrie, on produit des voitures en Russie, etc. Quel est l'intérêt d'avoir des hauts fourneaux en France ? En plus, je veux dire, la sidérurgie française, elle s'est transformée depuis 20-25 ans en une sidérurgie qui était une sidérurgie placée près des mines de fer près des mines de charbon, vers la sidérurgie au bord de l'eau, où on importe à la fois le minerai de fer et le charbon. Fos, Dunkerque. C'était ça, Usinor, hein, d'accord ? Qu'est-ce que fait Mittal ? Ben, il fait ce que tous les capitalistes cohérents font pour garder des profits intéressants. Ils optimisent en disant « Moi, le haut fourneau, j'en ai plus rien à faire. De toute façon, ben, des trucs comme ça, je veux dire... Moi, je veux une petite aciérie à l'oxygène qui me fait les récupérations, tous les déchets, etc. Et puis, quand j'ai ça, je peux produire mon acier spécial dont j'ai besoin à la quantité qu'il me faut pour le marché qu'il faut. »
C'était pas Goldman Sachs qui est derrière le groupe Mittal. Alors, il nous reste encore 2 minutes, Maxi.
Alors, j'ai un bel organigramme. Alors, le bel organigramme, qu'est-ce qu'il te dit ?
2 minutes.
2 minutes, je vais pas prendre tout l'organigramme, je te rassure. La famille Mittal contrôle un holding qui s'appelle Grand Limited Gibraltar. Gibraltar,
c'est Alers, ça ?
Ça doit être...
Ça a lieu dit Alers, Gibraltar.
Gibraltar, c'est aussi Alers, ouais. Mais c'est ce Gibraltar-là est en liaison avec le Royaume-Uni où la famille Mittal est installée. Elle est à Londres. Oui. Et donc, on peut investir à Gibraltar. C'est un paradis fiscal.
C'est un paradis fiscal, oui. Il y a des beaux singes à Gibraltar. Ah, il y a surtout super. Un paradis fiscal, ouais.
Et là, ce Grand Limited contrôle une société qui s'appelle Value Holding au Luxembourg.
Au Luxembourg, paradis fiscal.
Paradis fiscal également, qui contrôle 2 autres sociétés au Luxembourg, qui elle-même contrôle ArcelorMittal, qui est au Luxembourg. Mais ArcelorMittal, Arcelor, qui est-ce qui a délocalisé vers le Luxembourg ? Arcelor. Ça vous dit rien ? Vous avez un petit peu de notion d'histoire ?
Alors,
il y avait un certain PDG qui s'appelait Monsieur Francis Père, qui était chez Usinor.
Voilà, création 2002, création d'Arcelor, née de la fusion d'Aceralia, Espagne, d'Arbed, Luxembourg, et d'Usinor.
Et d'Usinor.
Siège social Luxembourg.
Voilà, siège social Luxembourg. C'est nous qui avons donné les moyens à Mittal de faire l'OPA sur Arcelor. C'est simple.
Et c'est pas vieux.
2002. Et c'est pas vieux du tout.
Il y a 10 ans, là.
C'est pas vieux du tout. L'évolution des productions en France, elles sont liées directement à ça. C'est-à-dire que moi, je suis un capitaliste cohérent, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais ? Mais tout simplement, j'adapte mes capacités de production aux débouchés que j'ai. Si j'ai pas ça... Alors après, bon, je vais pas le décrire, mais on a au moins une quarantaine de holdings qui sont des holdings spécialisés par pays, avec à chaque fois une société qui contrôle un lieu de production. Par exemple... Si on regarde la partie allemande, il y a un petit peu de choses en Allemagne encore. En Pologne, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, fameux intérêt notionnel. On en parlera un autre jour, des intérêts notionnels. Et ArcelorMittal en France, qui est tout en bas. Mais c'est un petit truc parmi une cinquantaine de holdings.
C'est un grain de sable, un petit galet dans le...
C'est un tout petit pâté dans un gros organigramme d'une page.
Tu publieras ça sur ton site dans ton prochain livre.
Je vais mettre sur mon site, comme ça on le verra.
Tu le mets en rouge, hein, parce que... Ouais. En bleu, blanc, rouge, pardon, le petit carré
France. Je vais le mettre en bleu, blanc, rouge, je ne sais pas, c'est quoi les couleurs du Luxembourg.
Bleu, blanc, rouge.
Ça doit être bleu, blanc, rouge aussi. Donc, ce n'est pas le même agencement, mais ça doit être ça aussi. Et donc... On verra que ce petit holding ArcelorMittal France est un tout petit carré parmi une cinquantaine de carrés. Et ce carré-là contrôle lui-même une centaine de sociétés, dont Grandrange, Florange, etc. Donc, je souhaite bon courage à M. de Montebourg pour nationaliser Arcelor.
C'est un pompier France. Qui n'a pas d'eau.
Oui, bon, on a, je veux dire, on a aidé les banques, on subventionne les banques, on peut, hein, je veux dire, on peut faire le même travail pour la sidérurgie.
On peut avec une volonté politique.
Voilà, avec une volonté.
La question de fond, c'est quelle est la volonté politique du gouvernement actuel de changer fondamentalement les règles du jeu.
On a bien compris, Benoît, que c'était un truc qui était en plein dedans, là.
Tout à fait.
T'es en plein dedans et ça va faire l'objet d'un bouquin.
J'essaye de décortiquer un petit peu tout
tu
ça.
Tu vas abandonner ta famille préférée pour...
Non, je n'abandonne pas, je continue.
Voilà. Et puis, ben,
Il
en faut pour tout le monde.
Gérard Mulier est le premier à dire quand on veut, on peut.
Absolument.
Et il a entièrement raison et on le soutient.
Mais absolument.
Il faut qu'on fasse la même chose, de notre côté.
De notre côté, c'est clair.
On peut aussi trouver toutes ces infos, l'avancée de ton boulot, sur, comme le disait André, sur un blog que tu as.
Voilà. Le blog, c'est...
Ectablog.
Ouais,
alors, c'est très simple. Vous vous connectez sur Radio Campus, vous cherchez après les émissions BCE, et il y a le lien vers les éditions Woosmart. Parce que le nom est assez...
Richesse Ectablog.
Voilà, ça doit être un truc comme ça, richesse des muliers.com. Vous mettez richesse des muliers, vous trouverez.
www.campuslille.com, les pages... Le BCE, l'émission Bon Calcul Économique.
Et puis on peut retrouver aussi les liens de...
Il reste 30 secondes.
Aux éditions est un puits.
L'édition est un puits.
Trois bouquins sur...
Pays bien connu, avec un bourgmestre qui est quand même...
Avec un
sous-lieu
qui s'appelle Nechin.
Voilà.
On en reparlerons la semaine prochaine. Eh bien, au revoir. Vous écoutez Radio Campus Lille. On vous laisse avec Juliette Gréco, Les Mains d'Or.
Soleil noir tourne sur la vallée, chemine muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce labyrinthe noir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires, horizon barré là, les soleils très rares, comme le tranché rouge saigné sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre battus par les vagues, rongé par la mer, tombé sur le flanc, giflé des marées, vaincu par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge. Là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, y'a plus rien à faire, quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher que quand je travaillais moi, après les experts, je me tue à produire pour gagner des clous, c'est moi qui délire, qui deviens fou, je peux plus exister là. Je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, plus rien à faire, je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore.